Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, ou chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous sommes aujourd'hui au téléphone avec Margot Blanchard. Bonjour Margot Blanchard.
Bonjour Marc.
Oui, alors vous êtes violiste, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc vous jouez de la viole de gambe. Hein, vous êtes co-créatrice avec Sylvain Sartre, qui lui est flûtiste de l'ensemble Les Ombres. Mais ce n'est pas pour Les Ombres qu'on vous contacte aujourd'hui, c'est parce qu'il va y avoir très bientôt, hein, c'est le 16 je crois, c'est cela, à Saint-Gély-du-Fesc, un opéra que vous allez donner avec le jeune orchestre baroque européen, un opéra de John Blow. Alors d'abord, ce jeune orchestre baroque européen, qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche de cet ensemble?
Oui, bien sûr. Donc le jeune orchestre baroque européen, qu'on appelle le JOB en réduction, est un dispositif que notre ensemble, donc que je co-dirige avec Sylvain Sartre, Les Ombres, a mis en place en partenariat étroit avec les Nuits musicales d'UZEF. Nous avons été en résidence dans ce magnifique festival qui a lieu en juillet, dans la deuxième quinzaine de juillet depuis de nombreuses années, et nous avons eu l'opportunité de proposer un nouveau projet, ce jeune orchestre, pour aider les étudiants en licence et en master dans les hautes écoles d'Europe à accéder à un projet professionnel, d'abord sous forme de résidence à la salle de Lombrière pendant une semaine qui aboutit à la création d'un spectacle, puis sous forme de reprise, comme ce sera le cas le samedi 16 novembre à Saint-Gély-du-Fesc.
Alors, donc j'imagine que c'est un ensemble qui change tout le temps de composition. Si ce sont des jeunes, d'autres prennent la place en permanence.
Oui, alors on fonctionne en fait en termes d'édition, c'est-à-dire que c'était la troisième édition en juillet dernier. C'est ouais. Donc cette troisième promotion, on va dire, promotion qui tourne là cette saison. On avait déjà eu donc deux promotions précédentes qui ont, en plus, par disons le bouche à oreille, augmenté la visibilité et l'attractivité du dispositif, qui donc accueille 16 instrumentistes et chanteurs, sachant qu'on a plusieurs centaines d'inscriptions. Je crois pour la deuxième édition, on avait plus de 400 inscriptions.
Donc, et les pupitres sont définis à l'avance, c'est-à-dire il y a pour chaque instrumentiste, il y a un effectif précis ou c'est en fonction des candidatures?
Alors, on ouvre parfois, il arrive que par exemple des instrumentistes aient une double casquette. C'était le cas par exemple dans l'édition de juillet où il y avait une soprano qui jouait également la flûte avec.
D'accord.
Ce qui lui a valu d'intervenir sur les deux postes pendant ce spectacle. Donc on peut laisser les choses quand même un peu ouvertes. Après, il y a toujours la partition qui impose tout de même un effectif de base pour pouvoir la jouer d'un bout à l'autre, ainsi que les tessitures, ici les tessitures des héros, des protagonistes de ce petit opéra, qui évidemment nous dicte de choisir un baryton, une basse, une soprano, une mezzo, en fonction des besoins de l'œuvre.
D'accord. Oui, donc c'est le choix de l'œuvre qui va être au programme, qui va donc là un programme aussi bien d'enseignement ou de pratique qu'au programme de concert, qui va décider un peu du recrutement.
Effectivement. En fait, ils postulent pour une œuvre précise.
D'accord.
Ils sont déjà au courant au moment où ils postulent de l'œuvre qui a été sélectionnée pour le projet. Et d'ailleurs, ça fait partie en général de leur première motivation. On a déjà eu du répertoire italien la première année en répertoire italien instrumental, donc qui tournait plutôt autour de Antonio Vivaldi. La seconde année, on est allé chez Alessandro Tarabella, qui est moins connu.
Ouais.
On a fait une petite réduction d'un oratorio qui s'appelle La Susanna. Alors La Susanna, c'est un thème biblique qui a été évidemment mis en musique par de grands compositeurs comme par exemple Handel, mais la version de Tarabella était un peu plus intimiste et se prêtait très bien à notre effectif. J'ai eu des chanteurs merveilleux qui se sont bien prêtés au jeu et également l'assistance d'une coach en linguistique, diction linguistique et rhétorique italienne et lyrique. Ce qui leur a permis aussi de perfectionner la langue. Donc vraiment pendant une semaine, Ce qu'ils vont avoir, c'est déjà plus de répétitions qu'on en a dans un projet professionnel, parce qu'aujourd'hui, bah, les répétitions payées, forcément, ont un coût. On ne peut pas toujours répéter plus de 3 jours pour un projet. Donc là, ils ont vraiment 6 voire 7 jours complets de répétition, ce qui leur permet d'arriver très en confiance au moment de la création, et ce qui nous permet à nous, donc Sylvain et moi, nous nous alternons à la direction, on est tous les deux chefs, ce qui nous permet aussi à nous de pousser le travail d'interprétation encore plus loin avec eux, et qu'ils arrivent vraiment au grand maximum de leur performance le jour J.
Oui, puis alors, vous évoquiez donc le partenariat avec les nuits musicales du ZES, mais je vois que sur le programme, il y a plein d'autres partenaires qui sont indiqués, hein, le CRR de Paris, le CNSM de Lyon, la Scola Cantorum, le célèbre Scola Cantorum de Bâle, et puis également Bruxelles et Barcelone, donc il y a beaucoup de monde. C'est eux qui recrutent un petit peu les musiciens, ou comment ça fonctionne, ce soutien ou ce partenariat avec toutes ces institutions d'enseignement?
En fait, c'est eux qui nous accueillent dans les départements de musique ancienne.
D'accord.
Au sein de leur structure, pour que nous puissions, nous, organiser les auditions, sachant que même si nous organisons des auditions au CRR de Paris et au CNSM de Lyon, les auditions sont ouvertes aussi à des étudiants qui ne seraient pas forcément étudiants de ces structures-là. Ils peuvent venir d'une autre ville, ils peuvent venir aussi de villes où on ne peut pas se déplacer. Par exemple, on n'a pas encore ouvert les auditions en Allemagne. Cette année, il y a une nouvelle école qui nous ouvre ses portes à La Haye. Donc, elle vient s'ajouter. Donc, il y aura 6 villes de recrutement, mais c'est vraiment l'équipe des ombres, en fait, qui se déplace, Sylvain ou moi, ou aussi notre chargé de développement, Louis Granger, qui se déplace pour faire les auditions. Ensuite, on met tout en commun. Parfois, on sollicite aussi les coachs qui vont intervenir pour nous aider à faire un choix précis sur un certain type de poste, je ne sais pas, le continuiste ou... Et voilà, on met tout ça en commun pour faire le meilleur choix possible. Et surtout, on s'attache beaucoup pendant le processus de recrutement à faire une petite séance de travail avec chaque candidat pour, évidemment, de notre point de vue, tester leur flexibilité, mais aussi pour eux, pour qu'ils soient un peu plus à l'aise. On est toujours plus à l'aise sur un deuxième passage, on peut toujours montrer un petit peu plus de choses. Puis, du coup, il y a aussi un échange humain qui se met en place, qui fait que j'ai parfois... nous n'avons parfois pas pris un artiste et un étudiant sur son premier passage à la première édition, mais on avait pu le recruter 1 ou 2 années après, en lui donnant un feedback assez précis, soit en direct, soit par mail, pour qu'il puisse comprendre en fait qu'est-ce qu'on attend d'un jeune artiste qui présente une audition.
Oui, donc la sélection, elle est un petit peu des deux côtés. C'est-à-dire, vous choisissez des interprètes qui vous semblent avoir pour vous le bon niveau, la bonne motivation, mais eux peuvent aussi se dire oui, non.
Non, c'est pas vrai. Ce que je voulais plutôt dire, c'était que, en fait, le processus d'audition dans le monde professionnel peut être un peu ingrat. C'est-à-dire qu'on se prépare beaucoup, on dépense de l'argent aussi pour se rendre quelque part. Et on n'a pas forcément un feedback comme quand on s'inscrit, par exemple, à une masterclass, où là, vraiment, l'intervenant va être hyper attentif à donner le plus de conseils possible à la personne.
D'accord.
Donc, nous, ce qu'on fait, c'est un petit peu un pont entre leur cocon d'enseignement et le monde de la vie professionnelle, pour que ce soit le plus facile et fluide pour eux et puis même pour qu'ils puissent s'améliorer dans le cadre d'autres auditions futures. Notre but, c'est vraiment qu'après le job, ils soient un peu plus armés pour le monde professionnel.
Oui, il y a vraiment un accompagnement vers la professionnalisation.
Absolument.
Alors on fait une petite pause et puis on se retrouve pour parler de l'œuvre que vous allez donner, donc le Vénus et Adonis de John Blow.